Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir, ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. En avril 2021, la revue médicale britannique The Lancet a publié un rapport concernant les fausses couches dans le monde. Et ce rapport, il a pointé du doigt le fait que les grossesses arrêtées, notamment celles qui s'interrompent de manière précoce, sont extrêmement nombreuses. Les chiffres sont saisissants. Il y a 23 millions de grossesses qui se terminent par une fausse couche dans le monde. 23 millions, cela représente 15% des grossesses totales. Derrière ce nombre, je vois un paradoxe énorme. Si une fausse couche peut toucher n'importe quelle femme enceinte, pourquoi sommes-nous si peu informés et sensibilisés à cette question ? Certaines personnes vont me répondre de manière un peu automatique, mais on ne va pas commencer à effrayer toutes les femmes quand même. Certes, mais est-ce plus effrayant de savoir qu'une grossesse peut s'interrompre, ou de vivre une fausse couche dans la solitude la plus totale, ne pas oser en parler et ne pas réussir à avoir les bonnes informations ? D'ailleurs, si le terme de fausse couche est entré dans le vocabulaire courant, sait-on vraiment de quoi il s'agit et comment ça se passe ? Pour être honnête, je fais partie de ces femmes qui savent que ça existe, mais qui étaient jusqu'à récemment bien incapables de dire en quoi ça consistait. Alors, une fausse couche, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les différentes prises en charge possibles ? Quelle est la différence entre une fausse couche dite précoce et une fausse couche tardive ? D'ailleurs, une grossesse qui s'arrête au début du second trimestre, est-ce nécessairement une fausse couche ? Pour tenter de faire le point et d'y voir un peu plus clair, nous allons discuter de tout ça avec mon invitée. Myriam est gynécologue dans un hôpital parisien et elle a accepté mon invitation pour vous donner quelques clés pour être les mieux informées possibles. Les entretiens d'Au revoir podcast, épisode 5, les fausses couches. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se passe ? Bonjour Myriam.
Bonjour Sophie.
Alors pour commencer, je vais te poser une question qui est assez basique, mais qui est, je pense, nécessaire. Qu'est-ce qu'on entend par le terme de fausse couche ?
Faire une fausse couche, concrètement, c'est constater la perte de sa grossesse. Soit du coup, on la constate quand on consulte les urgences gynécologiques ou son gynécologue ou encore sa sage-femme devant des signes cliniques, comme des pertes de sang ou bien des douleurs au ventre importantes. Soit on la découvre de manière fortuite lorsqu'on réalise l'échographie du premier trimestre, par exemple. Et effectivement, il y a deux types de fausses couches. Les fausses couches dites précoces, qui sont définies par la perte de la grossesse avant 14 semaines d'aménorrhée, et les fausses couches plus tardives qui surviennent entre 14 et 22-24 semaines d'aménorrhée.
On voit circuler beaucoup de statistiques qui montrent que les fausses couches sont un phénomène assez fréquent, et si on regarde dans les médias francophones, il y a des chiffres qui reviennent de manière systématique. On parle souvent de 200 000 fausses couches par an, de une femme sur 4 ou 5 qui va connaître une fausse couche, mais en fait quand on dit ça, de quelle fausse couche parle-t-on exactement ?
Quand on parle effectivement des fausses couches précoces, on inclut seulement celles qui surviennent du coup avant 14 semaines d'aménorrhée. Et effectivement, selon les études, environ 12% des grossesses évoluent vers une fausse couche précoce, ce qui est pas rien. Et quand on inclut les fausses couches tardives aux fausses couches précoces, on est effectivement plus de l'ordre d'un couple sur cinq concerné. Et ensuite, il y a les fausses couches dites répétées, c'est-à-dire au moins trois fausses couches consécutives qui, elles, concernent environ 1% des couples. Donc encore une autre catégorie.
Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ce qu'il faut retenir, quels que soient les chiffres en fait, c'est qu'une fausse couche, c'est quelque chose qui est relativement fréquent et loin d'être anecdotique dans un parcours lié à la maternité.
Non, c'est très fréquent. Après, nous, on est biaisés, hein, à l'hôpital, on en voit tous les jours. Mais non, ça concerne quand même un couple sur 10 au moins, donc c'est pas du tout rien. Et c'est le quotidien des urgences gynécologiques. Et on n'en parle pas assez non plus.
Alors, tu parlais du stade de 14 semaines d'aménorrhée pour les fausses couches précoces, de 22-23 semaines d'aménorrhée pour celles qu'on va qualifier de tardives. Est-ce qu'une fausse couche tardive a le même type de cause qu'une fausse couche dite précoce ou présente-t-elle des causes spécifiques ?
Les fausses couches tardives ont des causes complètement différentes hein, de la fausse couche précoce, donc c'est deux entités à part. Il faut savoir qu'après une fausse couche tardive, on réalise systématiquement un bilan de la cavité utérine, c'est-à-dire qu'on recherche en fait la présence dans l'utérus d'une anomalie qui peut entraîner du coup et qui peut expliquer la perte de la grossesse. Par exemple, une cloison dans l'utérus qu'on doit traiter. Du coup, on peut aussi, par exemple, rechercher une cause infectieuse, ce qu'on appelle une chorioamniotite, qui entraîne du coup la fausse couche tardive. Ça, c'est des exemples un peu de causes de fausse couche tardive. Pour les fausses couches précoces, le bilan déjà se réalise qu'après deux voire trois fausses couches. Et donc, quand on est dans la définition du coup de fausses couches répétées. Et les causes, elles sont encore différentes, elles sont multiples. C'est un bilan assez lourd qui est réalisé lors de consultations dédiées. On recherche des anomalies aussi de la cavité utérine, mais on recherche aussi des anomalies chromosomiques, des pathologies auto-immunes, des causes hormonales endocriniennes, des causes vasculaires. Enfin, c'est encore une autre entité à part et un bilan plus lourd hein, que lors d'une fausse couche tardive.
Mais si on prend l'exemple d'une femme qui va faire dans son parcours vers la maternité une fausse couche précoce de manière isolée, sans qu'elle connaisse par la suite d'autres grossesses arrêtées, dans ce cas précis, quelle va être la principale raison de cet arrêt de la grossesse ?
Bah, c'est vrai qu'on ne les recherche pas au bout d'une fausse couche, mais la cause principale... je pense, en tout cas, c'est des anomalies chromosomiques, ce qu'on appelle l'aneuploïdie. En gros, c'est quand le lot de chromosomes et du fœtus est caractérisé soit par la perte d'un ou plusieurs chromosomes, ou la présence d'un chromosome en plus, et du coup que l'embryon est pas entre guillemets viable. C'est la cause principale de fausses couches spontanées, donc c'est un peu un accident entre guillemets génétique, et ça arrive. Donc du coup, au bout d'une fausse couche, on fait pas forcément bilan. Après, quand les fausses couches elles sont répétées, au bout de deux quand même, enfin c'est dur parce que c'est vrai que selon les recommandations françaises, le bilan est à faire au bout de trois fausses couches. Les recommandations européennes, c'est plus au bout de deux. Bon, moi c'est vrai que je trouve ça un peu au bout de deux, je commence à faire un bilan, quoi. C'est un peu difficile d'attendre, de dire au couple, bon, on va quand même attendre la troisième, c'est les recommandations pour faire le bilan. Au bout de deux consécutives, on entame le bilan et on voit. Le bilan, il est quand même long, il se fait sur plusieurs mois. Après, les couples, ils peuvent aussi choisir de tenter une nouvelle grossesse en attendant d'avoir les résultats du bilan. Je pense vraiment que ça vaut le coup de commencer le bilan au bout de deux fausses couches quitte à ce qu'il y ait une grossesse évolutive par la suite et des stops au bilan. Oui.
J'ai une interrogation en fait qui concerne les grossesses qui s'arrêtent dans les premières semaines du second trimestre et avant les 5 mois de grossesse, ce qui engloberait du point de vue du terme les fausses couches tardives. Est-ce que lorsque le cœur du bébé cesse de battre et qu'on constate ça par exemple à une échographie de contrôle, est-ce que c'est une fausse couche ou est-ce que c'est une mort fœtale in utero? Qu'est-ce qui différencie les deux en fait?
Bah, c'est vrai que c'est des présentations cliniques un peu différentes. La mort fœtale in utero, elle se distingue vraiment de la fausse couche tardive. Lorsque la patiente, elle vient, enfin, pour une fausse couche tardive, enfin, lorsqu'elle vit une fausse couche tardive, donc entre 14 et 24 semaines d'aménorrhée, il y a le tableau clinique qui va avec. Elle consulte en général pour des douleurs, des contractions, ou bien des pertes de sang. Et là, on voit que le col est modifié. Et en général, enfin, la patiente, elle accouche rapidement. C'est vraiment des contractions qui se font, qui modifient le col et la patiente accouche. La mort fœtale, elle est diagnostiquée en général de manière complètement différente. Souvent, malheureusement, de manière fortuite, on fait une écho et on voit qu'il y a l'absence d'activité cardiaque. Éventuellement, parce que des fois, là, les patientes, elles viennent, elles perdent un peu de sang, on fait l'écho, ah bah mince, il n'y a pas de cœur. Ou encore, pour des stades plus tardif, hein, à partir de 20 semaines, en général, les patientes, elles peuvent ressentir les mouvements du bébé. Il y a des patientes, des fois, elles consultent à 23, elles disent 23 semaines, bah, je sens plus mon bébé bouger. Là, on fait l'écho, il n'y a pas de cœur. Mais ces patientes-là, elles n'ont pas de contraction. Le col, il est long, il est postérieur, il est fermé lors de l'examen clinique. Et c'est découverte à l'échographie de l'absence d'activité cardiaque. Et là, le bilan, il est encore différent. Et on se doit du coup de provoquer l'accouchement pour les morts fœtales, parce que les patientes, elles se mettent pas en travail. Voilà. Et effectivement, en France et pour d'autres pays, la limite de la viabilité est estimée à 24 semaines et ou un poids de naissance d'au moins 500 grammes. Et c'est à partir de ces critères-là qu'on se dit le bébé peut être pris en charge et peut être réanimé si besoin.
Alors moi, assez naïvement, je pensais en fait que lorsque la grossesse s'arrête entre 14 semaines et 23 semaines environ, je pensais que c'était systématiquement considéré comme une fausse couche. Et peut-être que c'est aussi une sorte d'abus de langage, souvent dans les médias ou dans les conversations, un abus de langage qui fait que toutes les grossesses qui s'arrêtent seraient considérées à ce terme-là comme une fausse couche. Alors, pour résumer ce que tu viens de dire et vérifier que j'ai bien compris, on parle parfois de fausse couche tardive alors que ce n'est pas le cas. Finalement, au-delà du premier trimestre et avant 5 mois de grossesse, une femme enceinte peut faire soit une fausse couche tardive, soit avoir une grossesse qui s'interrompt à cause d'une mort fœtale, et dans ce cas-là, il faut déclencher l'accouchement. Ce qui va différencier les deux, en fait, c'est ce que les médecins appellent le tableau clinique.
Et t'as tout compris, c'est ça. Et t'as des morts fœtales in utero à 16 semaines aussi.
Et donc, ce qui va différencier ces deux diagnostics, c'est le fait que l'accouchement doit être provoqué dans le cadre d'une mort fœtale in utero, parce que lorsqu'on a une fausse couche, en fait, le col va déjà être dilaté, on peut déjà ressentir les contractions.
Exactement, quand on doit provoquer l'accouchement, c'est une mort fœtale in utero, et c'est vraiment des étiologies complètement différentes. On recherche d'autres causes, on propose parfois enfin, des autopsies systématiquement pour essayer de trouver. C'est vraiment des entités différentes.
Donc finalement, pour résumer et être ultra synthétique, il faut avoir en tête que quand on perd son bébé entre 14 semaines et 22-23 semaines, ce n'est pas nécessairement et automatiquement une fausse couche.
C'est ça, exactement. Si on perd le bébé, c'est pas forcément une fausse couche. Exactement.
Que penses-tu d'ailleurs de ce terme de fausse couche? C'est un terme qui est aujourd'hui contesté parce que certaines femmes notamment estiment que l'adjectif faux à coller à couche ajoute quelque chose de factice à ce qu'elles ont vécu, comme si ça niait d'une certaine manière les semaines de grossesse qui s'étaient écoulées. On a l'impression, oui, voilà, que ça nie le fait qu'on ait été enceinte. Toi, en tant que soignante, quel regard portes-tu sur le terme de fausse couche?
Bah effectivement, hein, c'est vrai qu'il y a de nombreuses femmes qui trouvent que c'est un terme violent, que c'est pas des faux embryons, qu'il s'agit bien d'une vie qui a commencé dans leur utérus et qu'il n'y a rien de faux dans tout ça. Et je suis d'accord, c'est pas rien une fausse couche. Et du coup, en entendant en fait la vie de ces femmes sur ce terme utilisé, je me suis un peu dit, bah je vais un peu chercher d'où venait ce mot. Et parce que c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me suis dit, mais dans d'autres langues latines, on n'appelle pas fausse couche, quoi. En anglais, on dit miscarriage ou bien pregnancy lost. En espagnol, aborto involuntario, enfin avortement involontaire. Et en France, c'est vrai qu'on dit fausse couche. J'ai vu que c'était un terme qui date du XVIIe siècle et que en vrai, il y a plusieurs utilisations à ce mot fausse couche à l'époque. Et le mot couche, en gros, c'était soit l'accouchement. Donc, comme nous, on dit suite de couche, donc suite d'accouchement. Ou soit, ça voulait dire règle. Comme nous, on dit retour de couche, retour de règle. Donc, je pense qu'effectivement, en disant fausse couche, c'était soit fausse règle, parce que les patientes, du coup, elles saignaient. Mais c'était pas vraiment leur règle, quoi. C'était des saignements. Ou bien faux accouchement, parce que l'enfant était non viable. Et puis, on est dans le langage courant, on l'utilise tout le temps. Après, je pense qu'effectivement, on devrait évoluer un peu nos pratiques de langage et on devrait parler de grossesse arrêtée, enfin de perte de grossesse. Et d'ailleurs, en gros, scientifiquement en parlant, on dit pas vraiment fausse couche. Par exemple, dans les recommandations du Collège national des gynéco-obstétriciens de 2014 sur justement les entre guillemets fausses couches, ces recommandations, elles s'appellent perte de grossesse, quoi. Donc en gros, je pense que c'est dans le langage courant qu'on utilise fausse couche, mais c'est vrai que dans le langage médical, que ce soit dans les articles scientifiques ou dans ces recommandations, on parle de perte de grossesse ou de grossesse arrêtée. Mais je pense que oui, dans le langage courant, c'est un terme qu'on devrait essayer de modifier.
Alors maintenant, nous allons parler plus en détail de la manière dont les grossesses arrêtées sont prises en charge. Alors, pour vivre au mieux une fausse couche, une grossesse arrêtée et savoir exactement à quoi ça renvoie d'un point de vue médical. Une fois que le diagnostic a été posé, une fausse couche, ça se passe comment concrètement? Imaginons que je me rends aux urgences, qu'on est au premier trimestre de grossesse, voilà, j'ai des saignements, on me dit que c'est une fausse couche. À partir de là, comment ça se passe?
Les patientes, en général, quand elles ont une fausse couche, elles ont, enfin, une fausse couche précoce, en tout cas, elles ont des signes cliniques, elles consultent les urgences parce qu'elles ont des pertes de sang, ou des douleurs au ventre importantes. Et là, on peut mettre, du coup, en évidence la grossesse arrêtée. À ce moment-là, c'est quand même la sidération pour la patiente et pour le couple. Et du coup, on se doit de proposer une prise en charge de cette grossesse arrêtée. Donc, comme tu le dis, il y a différentes possibilités thérapeutiques. Donc, nous, on est là pour informer les patientes des différentes méthodes et de l'avantage et des inconvénients de chacune d'entre elles. Donc, il y a effectivement la méthode médicamenteuse, qui est une méthode d'un traitement médicamenteux qui va entraîner des contractions utérines et entraîner l'évacuation de la grossesse, qui peut se faire hein, sur plusieurs jours, hein, voire sur une semaine. Et ensuite, après cette prise de médicaments, en général, on vérifie qu'il a été efficace une semaine après en faisant une échographie et en vérifiant qu'il n'y ait plus rien dans l'utérus. Ça, c'est une des méthodes. L'avantage, c'est qu'elle est moins invasive que la deuxième méthode dont je vais te parler juste après. Et puis les inconvénients, c'est quand même que ça peut ne pas marcher. Et puis ça peut entraîner des saignements importants, ce qu'on appelle une fausse couche hémorragique. La deuxième méthode, qui est l'aspiration endo-utérine, c'est un acte chirurgical. Donc ça se fait au bloc opératoire. Et le principe, c'est de mettre une canule dans l'utérus pour évacuer mécaniquement la grossesse. C'est une intervention qui est rapide en soi, hein, le geste dure 10 minutes. Mais effectivement, c'est la méthode plus invasive que le traitement médicamenteux parce que c'est un acte chirurgical avec les éventuels inconvénients et complications de tout acte chirurgical, qui est quand même l'infection, par exemple. Hein, on insère un corps étranger dans l'utérus, donc il peut y avoir ce qu'on appelle des endométries, des infections post-opératoires. Après, l'avantage en général reconnu par les patientes, c'est que c'est quand même rapide. C'est pas comme le traitement médicamenteux où ça dure une semaine, puis en plus ça peut ne pas marcher. L'aspiration, les patientes, elles viennent, ça se fait une demi-journée, elles repartent après, et entre guillemets, c'est oublié. Mais voilà, c'est pas un processus long comme le traitement médicamenteux.
Tu as parlé de la prise en charge médicamenteuse en précisant que ça pouvait demander plusieurs jours. Concrètement, qu'est-ce que ce médicament est censé provoquer une fois qu'on l'a pris? Et pourquoi est-ce que ça peut durer plusieurs jours, en fait?
Ce traitement, il est là, effectivement, pour entraîner des contractions dans l'utérus. Et des fois, effectivement, on peut pas tout expliquer, mais ça peut contracter, ça peut saigner. Donc, en fait, l'utérus qui se contracte, peut faire des caillots dans l'utérus. Donc, voilà, ça saigne. Puis, les caillots peuvent s'évacuer, mais pas le sac de grossesse. Ça arrive. Voilà, c'est le mécanisme de faire des contractions. Un utérus qui contracte va saigner, mais du coup, c'est vrai que ça peut saigner sans évacuer le sac de grossesse. Donc, et du coup, on est amené à faire la technique chirurgicale. Et parfois, c'est vrai que toute femme est différente. Ça peut mettre effectivement une semaine hein, à évacuer, à saigner, puis vraiment à tout évacuer le sac de grossesse. Et parfois, ça s'évacue vite, par exemple le premier jour, mais les saignements peuvent persister parce que le traitement peut faire effet encore un petit peu les prochains jours.
Alors toujours à propos de la prise de médicaments, j'ai une question qui concerne la douleur. J'ai lu à plusieurs reprises, alors à travers des témoignages notamment, que les contractions entraînées par le médicament étaient plus douloureuses que des contractions spontanées qui sont entraînées par une fausse couche qui se déclenche naturellement. Est-ce que tu confirmes ça ?
Les contractions qui sont provoquées par traitement médicamenteux sont des contractions douloureuses. Donc la patiente qui a cette prescription médicamenteuse, elle se doit d'avoir à côté une prescription antalgique adaptée. Parce que oui, elle va avoir mal et il faut qu'on prévienne ses douleurs par une prise systématique d'antalgique. Et c'est pas que un antalgique de palier 1 comme du doliprane, c'est des antalgiques plus puissants, des paliers 2 en général, qu'on donne en parallèle de la prise du traitement qui va provoquer contraction.
Tu viens surtout d'insister en fait sur deux protocoles qu'on va qualifier de médicaux. D'une part, la prise de médicaments, protocole médicamenteux. D'autre part, l'aspiration-curetage qui a lieu sous anesthésie générale avec une hospitalisation en général de jour. Certaines femmes évoquent une troisième voie et revendiquent le fait de pouvoir choisir cette troisième voie qui est celle de ne pas prendre de médicaments, ne pas avoir d'intervention chirurgicale pour vivre leur arrêt de grossesse en conscience de la manière la plus naturelle possible en fait. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cette troisième voie en fait?
Après, nous on est vraiment là pour informer les patientes. Notre seul devoir en tant que soignant, c'est ça. Et une femme, elle a le droit de refuser ce qu'on lui propose et elle est aussi libre de son corps, de ses choix. Et l'expectative, ce qu'on dit la méthode expectative, c'est-à-dire d'attendre que ça se fasse naturellement, elle n'est pas recommandée parce qu'en fait, elle augmente le risque de fausse couche incomplète, donc c'est-à-dire d'un résidu qui reste dans l'utérus. Et tant que l'utérus a un résidu, il peut se mettre à saigner. Et du coup, ça augmente clairement le risque de chirurgie en urgence. En gros, une patiente qui choisit la méthode expectative, il y a un risque que ça se fasse un peu naturellement, puis que la patiente ne saigne plus, et puis que 10 jours après, elle se présente aux urgences pour des saignements hémorragiques, parce qu'il reste un résidu dans l'utérus, et l'utérus contracte, et du coup d'un coup ça saigne. Donc c'est uniquement pour ça que nous on recommande pas d'avoir une expectative, et c'est vrai que les études elles sont assez formelles dessus, hein. On sait que l'expectative elle augmente clairement ce risque de chirurgie urgente et aussi le risque de transfusion sanguine.
Par rapport à la méthode expectative, comme tu l'as nommée, je souhaiterais revenir dessus car tu as parlé des risques. Malgré tout, il y a des femmes dont la fausse couche va se déclencher de manière spontanée, sans qu'elles soient allées aux urgences. D'autres qui vont avoir un rendez-vous pour une aspiration et qui feront leur fausse couche chez elles, avant de pouvoir s'y rendre ou avant de pouvoir prendre le médicament. Pour ces femmes-là, et pour celles qui malgré tout voudraient opter pour l'expectative, quels critères ou signes doivent les alerter et les inciter à aller aux urgences?
Je pense que quand il y a les critères de fausse couche hémorragique, c'est-à-dire si elles changent de protection toutes les 30 minutes, ou bien si elles font un malaise, c'est des signes où il faut venir. Mais c'est les mêmes signes qu'on dit effectivement quand on donne le traitement médicamenteux. On dit aux patientes, on les informe, on leur dit, on vous donne un traitement médicamenteux, il y a un risque de fausse couche hémorragique. Les signes sont des changements de protection toutes les demi-heures, malaise, faut venir. Ces patientes-là, en général, on essaye de s'assurer qu'elles ne soient pas seules lors de la prise de médicaments ou qu'elles soient accompagnées, que quelqu'un puisse éventuellement appeler le SAMU ou autre si besoin. Mais c'est vrai que c'est ces mêmes signes-là chez les patientes qui choisissent une expectative, c'est des signes qui doivent les faire amener aux urgences, c'est ceux-là.
En fait, ce qui ressort de tout ce que tu me dis, c'est qu'une fausse couche au premier trimestre, c'est banal statistiquement, ça touche énormément de femmes, mais ce n'est pas parce que c'est banal que ce n'est pas douloureux, ce ne sont pas juste des saignements comme des règles abondantes. Non, c'est bien plus important, c'est loin d'être quelque chose d'anodin.
Non, une fausse couche, c'est loin d'être anodin. Après, les fausses couches extrêmement précoces, les patientes, elles ont comme des règles, un retour de règles, mais ça, c'est vraiment les fausses couches 3-4 semaines d'aménorrhée. Après, c'est vrai que dès qu'il y a un sac, un embryon, on est à des saignements beaucoup plus abondants et on a ce risque-là de fausses couches hémorragiques.
Tu parles du sac gestationnel, mais c'est à partir de quel terme qu'il y a la présence de ce sac?
Dès qu'il y a un sac intra-utérin avec un embryon, donc à partir de 5-6 semaines d'aménorrhée.
Toujours en lien avec la prise en charge médicale des grossesses arrêtées, comment s'effectue en fait le choix entre méthode médicamenteuse et méthode chirurgicale? Est-ce que le terme de la grossesse conditionne le choix de l'une des deux méthodes? Ou bien est-ce que c'est laissé à l'appréciation du médecin, de la patiente ou éventuellement de l'hôpital qui va prendre en charge cette grossesse arrêtée?
Alors pour les fausses couches tardives, c'est encore autre chose. Les fausses couches tardives, en général, c'est vrai qu'elles arrivent, elles contractent, elles accouchent. Donc on n'est pas dans le critère où il faut faire une aspiration, tout ça. Après, pour les fausses couches précoces, par exemple, effectivement, une fausse couche précoce vers 10 semaines d'aménorrhée, c'est une indication plus un traitement chirurgical, parce que le sac est important, l'embryon aussi. On se donne cette taille limite d'environ 4 cm de sac, de mesure du sac gestationnel, où on se dit, là, c'est plus une indication à faire une aspiration curetage. Mais encore une fois, les recommandations, elles disent que peu importe la taille du sac, on propose aux patientes les deux méthodes, et puis c'est à elles de choisir. Et il faut savoir effectivement qu'il y a un risque d'échec du traitement médicamenteux quand la taille du sac est supérieure ou égale à 4 cm. Donc on oriente plus vers l'aspiration, mais encore une fois, après c'est à la patiente de choisir.
Tu disais très explicitement, il y a quelques minutes, que les soignants et les soignantes, notamment aux urgences, quand ils prennent en charge une femme qui fait une fausse couche, sont là pour informer les patientes, pour informer les couples. On doit quand même admettre qu'il y a des dysfonctionnements à ce niveau-là, et certains témoignages de femmes, notamment, pointent du doigt des lacunes dans l'information. Parfois, elles ont eu l'impression de ne pas avoir eu tous les éléments en main pour bien comprendre ce qui se jouait. Je vais te donner là l'exemple d'un couple que j'ai reçu dans le podcast. La jeune femme a été reçue aux urgences en fin de semaine, un vendredi, je crois. Elle devait revenir le lundi pour une aspiration et on ne lui a pas dit qu'elle allait potentiellement peut-être faire sa fausse couche chez elle pendant le week-end. En fait, pour elle, c'était clair. Le diagnostic a été posé le vendredi. Voilà, il fallait qu'elle se rende au rendez-vous le lundi pour une aspiration et elle pensait absolument pas que quelque chose allait se passer le week-end. On ne lui a rien dit. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Elle a fait la fausse couche chez elle avec son compagnon à ses côtés. Alors, c'était peut-être complètement évident pour la personne qui l'a reçue, mais pas pour elle, et pas pour eux d'ailleurs. Et ils ont été extrêmement surpris. Comment ça se fait, selon toi, qu'en fonction de l'hôpital, ou même du médecin ou de l'interne qui va recevoir la patiente, on puisse observer ce genre de choses dans la prise en charge des fausses couches ?
Une raison possible et qui n'est pas excusable, c'est que mine de rien, c'est vrai que les urgences gynécologiques sont en général blindées, surtout un vendredi, avec un nombre de personnel soignant qui est quotidiennement limité, et donc des consultations à la chaîne, et une atmosphère inappropriée, enfin que je trouve inappropriée, en tout cas à l'annonce et à la prise en charge d'un couple qui arrive pour un diagnostic de fausse couche. Et effectivement, il est de notre devoir d'informer qu'en attendant cette prise en charge chirurgicale, la patiente, elle peut évacuer spontanément la grossesse chez elle et on se doit d'informer de quels sont les signes qui doivent la faire consulter aux urgences. En tout cas, c'est une information qu'elle aurait dû avoir. Après, je pense que même si ces consultations à la chaîne peuvent entraîner un manque d'information, on peut aussi créer d'autres outils pour pallier à ce manque d'information orale, peut-être comme des fiches d'information qu'on remet à la patiente à la fin de notre consultation, parce que aussi ça arrive que le couple est tellement sidéré que on balance tout plein d'informations, dont ces informations-là de si vous saignez tant faut venir, si machin faut venir, peut-être que vous pouvez évacuer la grossesse à la maison. Et c'est vrai que c'est des fois des couples aussi choqués, sidérés, avec plein d'informations d'un coup, et qui de coup ne retiennent pas toutes les bonnes informations. Et du coup d'avoir peut-être cette fiche à relire tranquillement à la maison ou autre. Enfin, c'est vrai que je pense que les urgences gynécologiques, ça peut être parfois très compliqué, très blindé et pas propice, vraiment pas propice, je pense, à la prise en charge des grossesses arrêtées.
Alors oui, effectivement, c'est évident que l'atmosphère des urgences, le fait qu'on manque souvent de personnel, de temps, ce n'est sans doute pas du tout propice à une prise en charge individualisée, dans l'empathie, sans parler du fait que les jeunes médecins ne sont pas toujours bien formés à ces problématiques. Cela dit, est-ce que tout ça, ce n'est pas aussi la preuve que les fausses couches sont tellement fréquentes que certaines personnes finissent par les considérer comme des choses banales et du coup, on ne tient pas compte du fait que c'est souvent un drame personnel quand même pour les gens qui se rendent aux urgences et qui vivent une fausse couche.
Je pense qu'effectivement, c'est le quotidien des urgences gynécologiques, on voit ça tous les jours, et probablement qu'il y a une forme de banalisation de la fausse couche. On en a vu 3-4 hier, on va en voir 3-4 aujourd'hui. Oui, c'est clair qu'il y a une banalisation de la fausse couche. Je peux pas dire le contraire, que ce soit parce que c'est fréquent et ou bien que ce soit parce que c'est le quotidien des soignants.
Tu expliquais que pour la prise en charge médicamenteuse, on délivrait un antalgique puissant. On conseille aussi aux femmes de ne pas être seules, ce qui montre bien qu'une fausse couche, ce n'est pas rien. C'est quand même quelque chose qui peut être très éprouvant physiquement, mais aussi moralement. Or, en France, on ne donne pas systématiquement d'arrêt maladie aux femmes qui vivent une fausse couche pour qu'elles puissent se reposer, récupérer. Et certaines ne se sentent même pas le droit de demander un arrêt maladie. Ou alors, elles vont aux urgences et elles sont ensuite obligées d'aller chez leur médecin traitant pour réclamer cet arrêt maladie qu'on n'a pas voulu leur donner. À l'opposé, il y a des pays, comme la Nouvelle-Zélande il y a quelques semaines, qui prennent des dispositions pour que chaque femme qui vit une fausse couche puisse avoir un congé. Alors en Nouvelle-Zélande, c'est un congé de 3 jours. Tu en penses quoi, toi, en tant que soignante ?
Bah, ça dit, comme on l'a un peu déjà dit, qu'on est clairement dans la banalisation de la perte de la grossesse. Après, c'est vrai que je suis convaincue que si c'est des urgences gynécologiques et des moyens associés, c'est pas adapté à la prise en charge globale, médicale et psychologique de ces couples qui consultent pour ça. Après, oui, toute femme qui vit une fausse couche, elle se doit d'avoir un arrêt de travail, que ce soit parce qu'elle va avoir mal physiquement et psychologiquement. Nous, on fait l'arrêt de travail. Enfin, moi, je sais que on fait l'arrêt de travail et après, la patiente, elle choisit ou pas de le prendre. Voilà, il y en a, elles font du télétravail. Elles disent, oh bah non, je suis chez moi, donc je veux pas m'arrêter. Et puis, j'ai mon conjoint à côté. Mais en tout cas, oui, on se doit proposer un arrêt de travail. Et après, ça adapte. Il y en a, elles retournent travailler, puis elles voient que c'est un peu limite et du coup, elles prennent l'arrêt. Enfin...
Alors, il y a une autre question que je me pose. Est-ce que suite à une fausse couche, il y a des symptômes, des signes liés au postpartum?
Non, il n'y a pas vraiment de signes particuliers. Alors après, il y a un signe qui nous met un peu en alerte en général. C'est quand la patiente, elle arrive et elle dit « bah, j'ai des petites traces de sang et puis en plus, j'ai plus mes signes de sympathiques de grossesse. J'ai plus mes nausées, j'ai plus les seins tendus. » Là, on se dit « ah mince ». On pense à la fausse couche et puis on diagnostique souvent la fausse couche. Mais voilà, à part ces signes de début de grossesse que les patientes n'ont plus, il n'y a pas d'autres signes en particulier après la fausse couche en soi. Il n'y a vraiment pas de signes du postpartum après une fausse couche.
Mais alors, c'est le cas même pour une fausse couche tardive ?
Par contre, effectivement, tu me devances un peu. La fausse couche tardive, oui, il peut y avoir hein, parfois la montée de lait qui peut se faire, par exemple, donc des signes donc du postpartum. Du coup, on propose à la patiente de bloquer cette montée de lait. Si ça arrive dans une fausse couche tardive, vers 17 semaines, 18 semaines, il peut y avoir cette montée de lait. Donc, et après, un retour de couche, du coup, qui se fait.
Justement, à propos du retour de couche, il y a une interrogation qui revient souvent chez les femmes qui viennent de faire une grossesse arrêtée. Après l'arrêt d'une grossesse, à partir de quel moment on peut réessayer de lancer une autre grossesse ?
En tout cas, médicalement parlant, il n'y a aucune contre-indication à réessayer d'emblée, après une ou deux fausses couches. Il n'y a rien qui s'oppose à une nouvelle grossesse, le cycle qui suit la fausse couche. Quand on est dans quatre fausses couches répétées, c'est à rediscuter. Est-ce qu'on attend les résultats du bilan ou est-ce qu'en attendant, on réessaye ? On propose au couple le bilan et après on discute un peu avec eux. Moi je discute avec eux, je leur dis bah, est-ce que vous voulez qu'on fasse le bilan et que vous mettez un peu en stand-by et qu'on reprenne, enfin que vous preniez votre projet de grossesse avec les résultats du bilan. Est-ce que vous voulez essayer en parallèle? Ça c'est libre à chacun parce qu'effectivement le temps du bilan, on peut revivre encore une fausse couche difficilement et retrouver quelque chose au bilan a posteriori. Mais voilà, c'est vraiment couple dépendant.
Et toi, en tant que femme médecin qui prend en charge des patientes qui vivent des grossesses arrêtées, quel conseil donnerais-tu à une femme qui vit une fausse couche ?
Je lui dirais tout d'abord de prendre soin d'elle physiquement et moralement parce que on est conscient en tant que soignant de l'impact psychologique que cette perte peut avoir sur elle et sur son couple. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de patientes qui me décrivent, alors c'est vrai que je suis pas mal de patientes qui ont des fausses couches répétées, qui me décrivent une perte totale de confiance en elles. C'est vraiment un truc qui ressort, c'est dingue. Et c'est vrai qu'on est impuissant face à ça. Je trouve que le sentiment de perte de confiance en soi, on peut pas faire grand-chose en tant que soignant. Donc je pense qu'il faut prendre le temps, qu'elles prennent soin d'elles. On se doit de proposer aux femmes qui le souhaitent une consultation avec une de nos psychologues parce que sur le moment, le vécu est difficile. Après, chaque femme est différente avec son vécu, ses blessures. Certaines auront ce besoin-là de parler à quelqu'un, d'autres pas du tout. Et on se doit de s'adapter au vécu de chacun. Après, en tout cas, je pense que vraiment, c'est à proposer. Et pas tout le monde le voudra, d'autres voudront. Après, je pense que c'est vrai que ça doit être systématiquement proposé lorsqu'on est dans le cas de fausses couches répétées, parce que là, le retentissement est quand même majeur. Je pense qu'il y a une espèce de pression, mine de rien. Il y a des patients, je pense, qui veulent prendre du temps et qui se sentent un peu oppressés par l'âge, par plein de choses. Mais je pense que c'est important de prendre soin d'elles, de leur couple, et de réitérer leur projet de grossesse quand ils sont prêts, quoi.
Il faudrait des heures et des heures pour faire le tour de la question, mais j'espère que cet entretien avec Myriam vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est une fausse couche. Retenez en tout cas que les médecins qui vous prendront en charge aux urgences sont tenus de vous informer le plus possible. Vous avez le droit d'avoir un arrêt maladie. vous avez le droit d'être entendu et soutenu dans votre souffrance. Alors si vous avez eu l'impression, justement, de ne pas être écouté, n'hésitez pas à vous tourner vers des associations ou vers les réseaux sociaux qui regorgent de personnes qui ne demanderont pas mieux que de vous soutenir. Concernant les fausses couches précoces, nous sommes revenus avec Myriam sur les protocoles médicaux, mais aussi la méthode expectative. Si jamais vous préférez attendre que la fausse couche se fasse d'elle-même, vous en avez le droit, c'est certain. Personne ne vous forcera à prendre un médicament. Mais il faut faire ce choix en connaissance de cause. Et comme l'a bien dit Myriam, les médecins abordent peu cette alternative, car les risques sont loin d'être anodins. Si vous faites ce choix, ou si votre fausse couche se déclenche avant la prise de votre médicament ou avant votre rendez-vous pour une aspiration, il vous faut être surtout vigilante à ce que les saignements ne deviennent pas hémorragiques. Si c'est le cas, il vaut mieux vous rendre aux urgences. Vous avez un doute ? Gardez en mémoire que si vous changez de serviette toutes les 30 minutes pendant 1h30, il vaut mieux consulter un médecin. Cet entretien touche maintenant à sa fin et je remercie Myriam d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à la semaine prochaine.